Je t'aime, je t'aime. Le sort en est jeté et j'en ferai le thème de ma réalité. Je donnerai mon corps à des sciences nouvelles. Je déjouerai la mort, je viendrai quand tu m'appelles. Je t'aime, je t'aime. Et déjà cet amour érigé en système enflamme les discours. Et en bas dans la rue, c'est la révolution que tombent les statues et que résonne ton prénom.
C'était un petit tour dans l'univers musical de Philippe B. de son album La Grande Nuit Vidéo. C'était la chanson Je t'aime, je t'aime.
Une histoire qui dure depuis 1981. Le groupe irlandais U2 est venu jouer 17 fois à Montréal en carrière. On en parle dans le Journal de Montréal d'aujourd'hui. U2 est de retour à Montréal ce soir et demain au Centre Bell pour sa tournée Experience plus Innocence. Profondément attaché à la métropole, le groupe irlandais y est venu pas moins de 17 fois depuis son tout premier passage en 81. Alors qu'ils ont amorcé leur toute première tournée nord-américaine en 1980, Bono et ses comparses sont passés par la métropole pour la première fois l'année suivante, le 9 mars 1981, au Club Montréal, qui allait devenir le Spectrum. 4 ans plus tard, les musiciens se payaient cette fois-ci le Forum. Et les années suivantes, U2 allait alterner entre l'Arena du Canadien, qui avait déménagé au Centre Molson, qui est devenu le Centre Bell, et le Stade Olympique. Le 1er octobre 1987, U2 attirait 65 000 spectateurs au stade. Le coût des billets, 27 $. Je n'aimerais pas que les gens paient 100 $ pour venir voir U2. Ça ne vaut pas ça, avait même dit Bono dans une entrevue à cette époque. Rappelons qu'il reste de bons billets pour les concerts de ce soir et demain à 360 $. En août 1992, 5 mois après un concert au Forum, U2 était de retour cette fois-ci au stade devant 45 000 fans. Fait intéressant, le groupe y jouait alors dans l'immense enceinte 3 semaines seulement, après la fameuse émeute du spectacle de Guns N' Roses. Un spectacle dont on se souviendra longtemps, bien que, grâce à la psychose provoquée par le dernier spectacle au stade, il était plus difficile de se rendre à son siège que d'entrer à la Maison-Blanche avec une arme en bandoulière, écrivions-nous dans nos pages. En 2005, pour ses 2 concerts au Centre Bell, U2 avait offert sa première partie à un groupe encore très peu connu à l'époque, Arcade Fire. Et 6 ans plus tard, faute de pouvoir présenter son imposante tournée U2 360 degrés dans le vétuste stade, le groupe avait marqué les esprits en faisant bâtir un stade temporaire de 80 000 places sur le terrain vacante de l'Hippodrome. Alors, si vous y allez ce soir ou demain soir, bon spectacle! Architecture, l'accès à la plus haute fenêtre de Montréal sera enfin possible. Jérôme Delgado, dans Le Devoir, en cours de lente transformation depuis près de 15 ans, l'oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal dévoilait lundi le concept architectural qui mettra un terme au vaste projet d'aménagement. L'ultime phase destinée à repenser la basilique et le musée du sanctuaire a été confiée à un consortium formé des firmes Atelier TAG et Architecture 49. Un peu plus près du ciel, un peu plus loin du sol, la plus haute fenêtre de Montréal, c'est à l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal qu'on l'expérimentera. Pour y accéder et concrétiser un souhait centenaire, les architectes choisis ont conçu un parcours digne d'une ascension qui ne déplaira pas aux plus fidèles pèlerins. Lancé au début de 2018, le concours d'architecture visait à donner accès à un espace désigné de l'Entre-Dôme et a créé un observatoire public dans le Lanterneau. Des quatre projets finalistes retenus en février, le lauréat s'est démarqué pour l'ascension à la fois physique, historique et spirituelle qu'il proposait. L'analyse architecturale de la basilique, le respect de l'infrastructure existante, la vue sur les réserves du musée. Les lauréats n'ont pas seulement conçu un beau projet, leur présentation au jury était magistrale, résumait l'architecte Carlo Carbone, président du jury. Couvrant un espace équivalent à 14 étages, l'Entre-Dôme existe depuis que la basilique a été complétée par le moine et architecte Dom Bello, après la mort du frère André en 1937. Ce non-lieu deviendra enfin public avec l'aménagement annoncé, mais les travaux ne débuteront pas avant 2020. L'ascension favorisée par les architectes se fera par un escalier assez vertigineux, de plus de 1000 marches, alors que la descente se voudra plus modérée par le biais d'une rampe autour du dôme. La montée est plus expéditive jusqu'à un certain point, reconnaît Manon Asselin de l'atelier TAG. Il faut dire que ça prend un effort physique important, et ça s'inscrit dans l'héritage du pèlerinage. La prémisse est d'arriver en haut. Une fois arrivé au Lanterneau, une fois qu'on a assouvi ce désir de voir Montréal, on descend de façon plus douce en promenade. Hugo Dumas dans la presse, Véro redevient Véronique pour les Fantastiques. Il y a le magazine papier glacé Véro. Il y a eu l'émission Les Midis de Véro à Rythme FM, suivie du Véro Show jusqu'en 2016. Au Québec, Véronique Cloutier, c'est Véro, juste Véro. Mais pour la rime et la sonorité du titre, Véro redevient Véronique pour reprendre le flambeau des Fantastiques sur les ondes de Rouge FM à partir du 27 août. Véronique et les Fantastiques jouera sur tout le réseau de Rouge, même dans le marché de Québec, du lundi au jeudi de 16h à 18h. C'est une grosse prise pour cette station dite adulte contemporain, propriété de Bell Media. Véro a animé pendant 14 ans chez le compétiteur Rythme FM qui appartient à Cogeco. La populaire animatrice perd rarement quand elle se visse dans une case horaire précise. Et Rouge FM a besoin de gagner. Au retour à la maison, la station a été éjectée du top 5 des émissions les plus écoutées du Grand Montréal. En se raccrochant au Fantastique, Véronique Cloutier remplace Éric Salvaille à la barre d'une émission que l'ancien King de V a moulée à sa propre personnalité. Pourquoi Véro n'a-t-elle pas remis les compteurs à zéro et recommencé avec une proposition radiophonique flambant neuve pour se dissocier complètement de Salvaille? C'est le format des Fantastiques qui m'a attirée et la possibilité de travailler en gang. Ça a l'air le fun d'être dans ce groupe-là, de parler autour d'une table, d'avoir plus de temps pour jaser, m'explique Véronique Cloutier en entrevue. La comédienne Maude Guérin a dû se retirer de la distribution de la comédie musicale Belle-sœur à cause d'une inflammation sévère des cordes vocales, a-t-on annoncé dans un communiqué. Au cœur de la campagne de promotion de Belle-sœur, Maude Guérin devait y tenir le rôle central de Germaine Lauzon, qui avait été jouée par Marie-Thérèse Fortin lors de la création de la comédie musicale en 2010. C'est l'excellente Kathleen Fortin, qu'on peut voir dans Unité 9, dans la pièce musicale « Demain matin, Montréal matin », qui a pris le relais de Maude Guérin et qui portera sur ses épaules cet immense personnage. Lauréat de 8 prix Iris, le film de zombies de Robin Aubert, Les Affamés, aura droit à une version Blu-ray. C'est ce qu'ont annoncé les distributeurs québécois du long-métrage. Les films Cristal et les films Séville dans un communiqué publié hier après-midi. Jusqu'ici, le drame d'horreur québécois n'était pas offert sur DVD, une situation que le réalisateur a dénoncée au micro de Radio-Canada après la soirée de gala. Les distributeurs précisent que la version Blu-ray sera lancée le 31 juillet, en partenariat avec Archambault et Renaud-Bray, afin de souligner cette reconnaissance au Gala Québec Cinéma et pour répondre à la demande de plusieurs cinéphiles. Rappelons que Netflix a acquis les droits internationaux du film québécois au début de l'année et que ses abonnés de partout dans le monde peuvent le visionner depuis mars dernier. Les abonnés canadiens de Netflix devront attendre à l'an prochain avant d'y avoir accès. Et pour terminer, des humoristes et des intellectuels s'unissent dans un spectacle pour dénoncer le sommet du G7 qui aura lieu dans quelques jours à la Malbaie, dans Charlevoix. Guillaume Wagner, Fred Dubé, Sexe illégal, Marie-Lise Chouinard, Catherine Dorion et Marie-Christine Lemieux-Couture seront au Centre communautaire Lucien Borne à Sainte-Foy samedi. C'est difficile d'être pour le G7 quand il y a autant d'opacité autour de la réunion, explique l'auteur, humoriste et comédienne Marie-Lise Chouinard qui présentera son compte Justin Trudeau et la lampe magique. Elle est persuadée que cette rencontre de chefs d'État pourrait être un événement positif s'il y avait plus de transparence de leur part. Elle rêve que les citoyens aient accès aux réflexions des politiciens lors de cette rencontre et même que le public soit invité à un moment précis à poser des questions comme lors de débats présidentiels. Si nous déboursons au-dessus de 200 millions de dollars pour finalement ne pas avoir accès à leurs réflexions et à leur évaluation des sujets abordés, je me pose des questions sur l'investissement. Est-ce qu'il vaut le résultat? Je dirais que non. C'est comme de payer 250 $ pour un examen médical, sauf que tu ne reçois pas les résultats, ajoute Marie-Lise Chouinard. Tous les billets se sont déjà envolés pour ce spectacle gratuit qui a été créé par le Front commun comique. Ce groupe, fondé par l'humoriste Fred Dubé et dont font partie Guillaume Wagner et Sexe illégal, présentera son 6e spectacle. Chaque fois, des humoristes et des intellectuels sont invités à dénoncer une situation. La première fois en 2014, le thème était « Non au saccage pétrolier » et le but était d'amasser des fonds pour le Centre québécois du droit de l'environnement. Il y a aussi eu un spectacle contre l'austérité et deux autres contre les paradis fiscaux. Nous avons eu l'idée de former un collectif, une base. Comme ça, nous ne sommes pas obligés de partir de zéro lorsque nous voulons faire un spectacle d'humour politique et engagé, dit Fred Dubé à propos du Front commun comique. Lorsqu'un sujet chaud les interpelle, ils proposent à leurs confrères de créer un nouveau spectacle pour un soir seulement.
La nuit est pas vraiment finie, assez juste cachée dans le matin. C'est un record, 12 ans et demi. Me semble que j'ai rêvé à rien. J'ai déjà sauté devant le train, ça traque. Jamais frenché avec la langue. Des mots qui filent entre les doigts, ballon chasseur dans l'estomac. C'est moi. Les petits gars qu'on voit dans les films, ils ont l'air d'avoir toutes les réponses. Moi chez nous je bâtis des villes, je gagne des courses puis je tue des monstres. Je gagne des courses puis je tue des monstres. Chaque fois plus vieux, quand il vient me chercher pour deux soirs. Dès qu'il parle, ça sonne comme un jeu, mais moi j'y crois plus, ces histoires. Tellement plus le goût d'avoir hâte, tellement bon pour faire semblant. Remettez-moi dans la boîte, demandez un remboursement. Maintenant, les petits gars qu'on voit dans les films, ils ont l'air de faire des belles rencontres. Moi, chez nous, je bâtis des villes. Je gagne des courses puis je tue des monstres. Je gagne des courses puis je tue des monstres. Surtout pas que ma mère entende les cris des filles nues dans ma chambre. Leurs paupières mauves battent des ailes, y en a-tu pour vrai des comme elles? Je voudrais recommencer toute ma vie, mais je peux pas dire ni où ni quand. J'ai pas fermé l'œil de la nuit, l'œil de la nuit me regarde tout le temps, tout le temps. Un jour je vais m'acheter des missiles que je contrôlerai avec ma montre. Et j'irai au-dessus des. Et j'irai aimer les monstres. Un jour je vais m'acheter des missiles que je contrôlerai avec ma montre. Et j'irai au-dessus des villes. Et j'irai. J'irai aimer les monstres.
Pièce phare de son album Aimer les monstres, c'était le titre de la pièce Aimer les monstres, Émile Proulx-Cloutier.
Alors, ça fait la une de la presse. Attention, le président débarque. Tristan Péloquin qui signe le texte. Quand le président américain Donald Trump se rendra dans Charlevoix pour le sommet du G7, le Canada cédera une petite partie de sa souveraineté à l'escouade de protection du US Secret Service, Derrière leurs costards sombres et leurs verres fumés, ces agents cachent un arsenal militaire suffisamment puissant pour repousser une attaque tactique d'envergure. Le cortège, partout où le président des États-Unis va, un cortège d'environ 25 véhicules des services secrets américains le suit. Le président lui-même se trouve dans l'une des deux limousines blindées surnommées « The Beast ». L'autre sert de leurre pour diviser les risques en cas d'attaque. Plusieurs voitures ou motos de la police locale ouvrent le cortège, suivies de camionnettes noires remplies d'agents de protection rapprochés du président. Parmi eux se trouvent les membres du Counter Assault Team, le CAT, une équipe tactique qui, en cas d'attaque, a pour mandat d'attirer le tir sur elle pendant que le président est évacué et amené dans un lieu sécuritaire déterminé à l'avance. Le convoi est toujours précédé de deux équipes d'éclaireurs qui ouvrent la route, 5 minutes et 3 minutes avant le passage du président. Les journalistes accrédités de la Maison-Blanche suivent à bord de deux camionnettes de transport intégrées au convoi. L'armement. Chaque membre des services secrets américains porte ses armes de service et peut cibler une menace selon les mêmes règles d'engagement que s'il se trouvait sur le sol américain. Les membres du CAT sont en tenue de combat et ont des armes automatiques entre les mains. Les armes que portent ces agents sont toujours un enjeu qui fait l'objet de négociations au préalable avec les autorités locales. Les services secrets sont très conscients qu'ils sont en sol étranger et de ce que ça impliquerait d'un point de vue diplomatique s'ils ouvraient le feu, assure Pierre-Yves Bordua, ex-sous-commissionnaire de la GRC qui a supervisé plusieurs visites de dignitaires étrangers au Canada. En 1985, lors d'un sommet canado-américain tenu au Château Frontenac, surnommé le Sommet des Irlandais, la GRC s'était opposée au fait que les services de protection de Ronald Reagan soient armés. Devant leur menace d'annuler tout simplement la rencontre, c'est Brian Mulroney lui-même qui a tranché la question et leur a donné le feu vert, raconte Jeffrey Robinson, co-auteur du livre Standing Next to History, qui raconte la carrière de l'agent des services secrets Joseph Petro. Le principe est rarement remis en question aujourd'hui, mais ça reste compliqué. Les agents font en sorte que ces armes soient le plus invisibles possible pour éviter de provoquer une réaction de panique, indique M. Robinson. Les trois périmètres. Une fois que le président descend de sa limousine, toute personne qui a une vue directe sur lui doit être préalablement scrutée au détecteur de métal. Un premier périmètre, composé de policiers locaux en uniforme, de barrières de métal et d'un petit nombre d'agents des services secrets, assure ce premier contrôle. Autour du président se trouve un deuxième cercle de protection, composé essentiellement des services secrets et de quelques agents locaux. Ils sont entraînés pour déceler la moindre anomalie. Ils peuvent demander aux gens de leur montrer leurs mains ou d'enlever leurs lunettes, illustre M. Robinson. Le dernier cercle, plus restreint, comporte la garde rapprochée du président. Celle-ci doit en principe rester à distance de bras de son protégé, mais les politiciens souhaitent de plus en plus qu'ils gardent une certaine distance. Ce sont des élus. Ils veulent donner l'impression qu'ils sont accessibles au public. C'est encore plus vrai depuis que les gens réclament de prendre leur égo-portrait avec eux, ce qui est un casse-tête pour les agents, note M. Bordua. Les impromptus. On se souviendra de l'arrêt surprise de Barack Obama au marché Bay d'Ottawa lors de sa visite officielle en février 2009 pour y acheter une queue de castor. Selon Jeffrey Robinson, ces visites impromptues ne sont jamais improvisées. Elles ne sont pas annoncées, mais les services secrets le savent à l'avance, question de pouvoir préparer la route du convoi en conséquence. Vous pouvez être sûr que 5 minutes avant l'arrivée de la limousine, ils ont encerclé l'endroit. Et en principe, le président ne boit pas et ne mange pas ce qu'il achète. Seuls les services secrets peuvent préparer la nourriture que mange le président. Ce n'est qu'une opération pour les caméras, soutient-il. Les services de l'ordre locaux qui ont... Les services de l'ordre locaux, qui ont aussi un rôle de protection à jouer, n'en sont cependant pas nécessairement informés. Ça donne des palpitations aux agents, mais c'est un peu devenu inévitable. Ça fait partie du combat constant entre le désir des politiciens de paraître accessibles et celui des services de sécurité de vouloir éliminer au maximum les risques, constate M. Bordua. Les autres équipes spéciales. Les membres du U.S. Secret Service ou du U.S. Secret Service débarquent généralement 3 mois à l'avance pour planifier le volet sécuritaire des moindres déplacements présidentiels. Ils reviennent à plusieurs reprises avant l'événement, notamment pour scanner les chambres d'hôtel pour déceler des micros, indique M. Robinson. Au jour de la visite, une équipe pour contrer de potentiels tireurs isolés, les counter-snipers, est déployée sur les toits des immeubles environnants. Un agent doit aussi obligatoirement être posté en tout temps à un hôpital situé au maximum à 10 minutes de route de l'événement. L'hôtel du président. Un des éléments les plus complexes à prévoir est l'hôtel où le président et son équipe dormiront. En principe, les étages au-dessus et en dessous de celui où se trouve sa chambre doivent être laissés vacants pour des raisons de sécurité. La préférence des services secrets, en principe, c'est de rentrer le soir même à Washington. D'un point de vue logistique, c'est beaucoup moins lourd à gérer pour eux. Et comme Charlevoix est relativement proche, je ne serais pas surpris que ce soit le cas lors du sommet G7, dit Jeffrey Robinson. Pierre-Yves Bourduat croit aussi que M. Trump rentrera le soir même, mais pour d'autres raisons. M. Trump est le mouton noir du G7. Il ne voudra probablement pas rester, ne serait-ce que pour montrer qu'il aime faire les choses autrement, croit-il. Les travaux suspendus à l'Assemblée nationale en raison du sommet. Tout indique qu'il n'y aura pas de travaux parlementaires à l'Assemblée nationale pendant le sommet du G7. La rumeur d'une possible suspension du travail législatif allait bon train depuis plusieurs jours. Bien que la réunion du G7 se déroule à la Malbaie dans Charlevoix, on s'attend à ce que plusieurs manifestations convergent vers Québec. Cette situation fait craindre aux autorités que l'accès à l'Assemblée nationale soit perturbé et que la sécurité des parlementaires soit mise en péril. La décision finale n'est pas encore prise, a-t-on indiqué hier au bureau du président de l'Assemblée nationale, Jacques Chagnon, mais dans les faits, les caucus ont déjà reçu des signaux confirmant que les travaux parlementaires seraient interrompus jeudi après-midi et vendredi matin. Article donc de Tristan Péloquin, écrit en collaboration avec Martin Croteau. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de l'émission Le quotidien des quotidiens, édition du mardi 5 juin. Un grand merci Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde et au choix musical. Ici Hélène Denis qui vous souhaite une agréable journée et on se retrouve demain, je l'espère bien.